Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction SmackDown, le show bleu du 17 janvier. Pour m'accompagner dans cette review complètement folle, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris.
Salut El Patron, salut peuple de Catch Up. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu.
On le disait là, hein, avant qu'on lance l'enregistrement en off, on est à quelques jours du Royal Rumble et on est très excités. Je sais que c'est un de tes pay-per-view préférés.
Yes, it is. Ah ouais. Non, là, on est vraiment là. On est à deux shows là, d'un des plus gros pay-per-view de l'année à la WWE. Comme on s'est dit auparavant, en plus, ce pay-per-view, il a la particularité non seulement d'avoir deux Rumble matchs, mais en plus autour des matchs de bonne qualité sur la carte en général. Donc, ouais, clairement, un des gros moments de hype de l'année catch professionnel, le Royal Rumble.
Avant que, justement, on parle de cette route du Rumble qui est bientôt terminée, petit hommage indispensable à Rockin' Johnson, donc le père hein, de The Rock, qui nous a quittés, évidemment. Hein, voilà, tous les ans, c'est la même rengaine. Hein, tous les ans, il y a des légendes qui s'en vont. Et ben cette semaine, c'était le papa, Rocky Johnson, qui nous a quittés. Tu me disais en off que tu le connaissais plutôt bien jusqu'à connaître le nom de ses maîtresses.
Ouais, je connais tout de Rocky Johnson. Je connais sa vie, son œuvre, ses maîtresses, qui mangeait au petit déjeuner, quelle marque de slip il portait. Quel bel homme, ma foi. Le papa du Rock. Non, mais après, pour être plus sérieux, c'est un type qui aura eu quand même une belle carrière au sein du catch en général, parce que c'était d'abord un catcheur de la NWA, la National Wrestling Alliance, et qui a été champion là-bas, à Memphis, il me semble bien. Après, il a été longtemps en tag team avec Tony Atlas, Tony Mister USA Atlas, quoi. Donc, deux gros beaux gabarits, hein, parce que notre ami Rocky Johnson, il faisait 1m88 et 112 kilos, et il avait une belle allure de boxeur, quoi. D'ailleurs, c'était un de ses gimmicks quand il montait dans le ring, voilà, il secouait les bras un peu comme un poids lourd de boxe.
Ah oui.
Et quand il est arrivé à la WWE, bah, il était là dans la période André the Giant, mes amis. Donc, dans une période vraiment old school, quoi. Et donc, champion, première équipe afro-américaine championne du monde par équipe à la WWF. Donc ça, c'est quand même à noter, quoi. Bien avant les New Day, etc. Il y avait déjà eu avant les Harlem Heat et compagnie. Donc, et puis, ils avaient la particularité qu'ils étaient la plupart du temps face, donc pour une équipe afro-américaine. Et ils ont été longtemps plus ou moins en bis-bis, en poteau, gros poteau même d'ailleurs, avec André the Giant. Et des grosses rivalités, pardon, avec les White Samoans. Les Head Shrinkers, donc des voilà, et puis voilà, le Rocky Johnson, il nous a quand même fait le catcheur du 21e siècle, puisque le The Rock n'est autre que son fiston, et bah quand même, quoi, rien que pour ça, je pense qu'on peut remercier chaleureusement la famille Johnson. Et puis dernier mot sur Rocky, il meurt à 75 ans, pour une fois qu'on n'a pas un catcheur qui meurt à 35 ans ou à 40 ans, ça change un peu. Voilà, un homme qui est mort de sa belle mort, donc rest in peace Rocky.
Ouais, rest in peace. Il a eu le temps de se marier trois fois, du coup, en 2004, avec Dana, sa dernière épouse.
Tu vois, toi aussi, tu t'intéresses au carnet rose.
Bah ouais, j'aime bien, ouais, voilà, Ric Flair, il a un record de ceinture, mais je pense qu'il doit aussi avoir un sacré record de maîtresse. Donc, je vais regarder un petit peu aussi les autres légendes, comment ils se débrouillent.
C'est... Au-delà des ring rats, mais c'est aussi cette génération de catcheurs-là qui a connu d'abord le catch des territoires. Et puis quand Vince McMahon Jr. À la fin des années 70 a vraiment remis la main sur la WWF, il a fait partie de l'aventure pour la première fois du catch national et voire worldwide.
Donc c'était sur la route toutes les semaines, quoi.
Ah ouais, là c'était une génération, là, ouais, c'était un truc de fou, hein. C'était vraiment... Donc c'est un gars qui a connu encore la fin de l'ère Sammartino, les débuts de Hulk Hogan. Enfin voilà, il est vraiment à la croisée des chemins, quoi. Et il a entraîné son fils, hein, parce que c'est ça aussi qu'on dit souvent, c'est que lui, c'est lui qui a pris en main un peu la carrière du Rock au début, quoi. Hein, quand Rocky Maivia apparaît en 97, si je me trompe pas, derrière c'est tout le background, c'est papa qui a appris, hein, qui a appris le boulot. Hein. Je vous conseille, si vous voulez aller voir quelques matchs. Je vous conseille d'aller voir en particulier un 3 contre 3 où il est en équipe avec André the Giant et où il affronte les White Samoans ou bientôt ce qu'on appellera après les Head Shrinkers. C'est un match qui doit dater de 82-83. Et où on voit bien un peu quel genre de catcheur était Tony Atlas et Rocky Johnson. Et puis bon, comme ça, vous avez un Français dans la troupe.
Ah bah oui, un grenoblois.
Un grenoblois, eh ouais. André Roussimoff, il s'appelait, le monsieur.
moi, je me souviens aussi de The Rock qui avait interprété son père dans la série 70 Show.
Oui, tout à fait. Oh putain, la vache, t'as une belle mémoire, là, jolie. Hein, je l'aurais pas ressorti celle-là.
Il a interprété son père, donc t'as le héros qui va voir, ils vont voir du catch dans un truc à la MJC du coin. Et il va dans les vestiaires et t'as Rocky Johnson interprété par The Rock. Et c'était plutôt sympa. Il y avait d'ailleurs, pour l'anecdote, Shamrock aussi qui était dedans. Et je me demande s'il n'y avait pas un des frères Hardy aussi qui était dedans. Je vais dans cet épisode.
Cette série, c'était la série qui se terminait par Hey Wisconsin!
Hello Wisconsin!
Voilà, c'était ça, ouais.
Bon, ici, on retournait en 2020. En 2020, Kane est maire. C'est des trucs improbables, tu sais. Genre, s'il y a 20 ans, t'avais dit ouais, dans 20 ans, Kane va se présenter aux élections de Knoxville et il va gagner. T'aurais dit quoi? Eh ben non, il est maire, mais il a visiblement, côté maire, t'as du temps. T'as du temps à tuer puisque Ken arrive en démon Ken. Hein. Il est en démon Ken. Il va nous teaser un peu la Royal Rumble. C'est son show préféré, évidemment, puisqu'il a le record, je crois, 47 éliminations.
Oui, 45 ou 47, je sais plus. Ou
43. Ouais.
Enfin bref, sur le cumulé, quoi.
Ah oui, sur le cumulé. Ouais, parce qu'ici, sur 47 gars en un Rumble, c'est chapeau là. C'est chapeau.
Parce que le record en individuel pour un seul Rumble, c'est Roman Reigns qui le détient. Et le record absolu en individuel, mais parce que c'était un Rumble à 50, c'est Braun Strowman. Pour le Greatest Royal Rumble qui s'était fait en Arabie Saoudite.
Ah oui, effectivement. Bon, Ken, il en a fait... Tu sais combien il en a fait, Ken, de Rumble?
Oh, je dirais qu'il en... il doit pas être loin de la vingtaine, quoi. Il doit être à 18, 19?
À 17.
17.
Est-ce qu'il va apparaître dans celui-là, tu crois?
Ah bah, je crois que ouais. Hein. T'as un doute là-dessus?
Non, j'ai pas forcément de doute.
Tu ressors pas Kane des flammes de l'enfer pour deux semaines avant le Rumble pour pas l'inclure dans le Rumble.
Ouais. Faut qu'il fasse une petite élimination peut-être, mais.
Ouais, peut-être pour une petite élimination. Ou alors mon doute aussi, c'est peut-être qu'il soit en fait qu'il intervienne dans le match avec le Finn.
Ouais, peut-être, effectivement. D'ailleurs, tu en parles très bien puisque le Finn, enfin Bray Wyatt apparaît sur l'écran dans un épisode de la Firefly Funhouse. Il dit, il est content de voir Kane, mais il lui demande de s'excuser parce que c'est pas un chic type et qu'il se souvient. Donc on a un package vidéo des différents affrontements qu'il y a eu entre la Wyatt Family et Kane à la grande époque. On est rassuré d'ailleurs pour ceux qui s'inquiétaient. Moi, le premier, puisque je lui avais donné mon top, Rambling Rabbit est vivant.
Oui,
voilà. He's alive. Bon, il est en sale état, il est sous perf. Et d'ailleurs, Bray Wyatt, c'est limite s'il lui a pas, il lui a pas retiré la perf quoi pour le faire taire. Il est champion, donc il pense pas que Ken va gagner. Il nous rappelle que le Finn ne pardonnera jamais et que Bray Wyatt non plus. Et soudain, le Finn apparaît, il sort du ring, un peu à la manière de Kane à la grande époque. Hein.
Oui, hein, complètement. Il y a des vraies similitudes entre les deux.
Ouais. D'ailleurs, et c'est très drôle. Alors, il prend un temps fou. Et d'ailleurs, Kane se retourne et il le voit. Et genre, qu'est-ce qu'il te prend? Pourquoi tu mets autant de temps pour venir? Donc, il se fait un petit peu charrier. Daniel Bryan débarque. Voilà pourquoi il prenait beaucoup de temps. Il place son running knee, là, le Busek knee. Et le Fiend s'échappe. Il retourne sous le ring. Mais Bryan a le temps de lui arracher quelques dreadlocks. Et Daniel Bryan et Kane donc célèbrent leur retrouvaille dans une effervescence assez incroyable.
En mode Team Elno.
En mode Team Elno, voilà la Team Elno qui a été reformée le temps d'une soirée. Un peu plus tard, Daniel Bryan est interviewé et il nous explique, c'est un petit peu tordu, que The Fiend il passe son temps à fuir. Je ne suis pas très convaincu par ça, mais bon, pourquoi pas. Et que du coup, pour l'empêcher de s'enfuir, il y aura une stipulation dans leur match, justement, au Rumble, un strap match. Le strap match, vous savez, c'est cette mauvaise stipulation où les mecs sont attachés l'un à l'autre. Ils ne peuvent pas s'échapper. Bon, bah écoute, qu'est-ce que t'as pensé de cette intro, de ce retour de Kane aux affaires et surtout de cette drôle de stipulation qu'on vient de nous ajouter là?
Ouais, alors c'est une mauvaise stipulation, mais en même temps, Daniel Bryan, il est malin, parce que c'est peut-être le seul moyen qu'il a de jamais que jamais le Fiend puisse lui mettre à l'envers en essayant de, tu vois, il veut le garder proche de lui tout le temps, en considérant qu'il est un meilleur lutteur, et que donc il va prendre le Fiend de cette manière-là. Je sais pas, c'est peut-être tout un calcul de la part de l'American Dragon. Mais,
oh bah oui, il est très intelligent, le garçon.
Oui, cet homme gère totalement son booking, donc il est en capacité à savoir quelle est la bonne stipulation pour affronter The Fiend. Après, écoute, j'étais content de voir Kane, c'est sympa, lui, il vient vraiment de manière sporadique, et quand il vient, il fait des trucs sympas, souvent avec Daniel Bryan, là, ces derniers temps, et donc du coup, c'était plutôt sympa. Effectivement, toutes ces similitudes entre The Fiend et lui sur l'entrée à travers le ring par Bray Wyatt, etc. C'était moi je trouvais ça bien, quelques dreadlocks arrachés, tout ça, voilà quoi. On rend un peu la monnaie de la pièce aux démons. Et écoute, à la fin ça se termine en feel good moment avec un petit revival de Team Hell No. Donc, du coup c'était un up honor bien sympa. Et puis très franchement, moi je suis hypé complètement par le match qui va arriver entre The Fiend et Daniel Bryan. Donc il me tarde de voir ça au pay-per-view du Royal Rumble.
Ouais, effectivement, j'ai plutôt apprécié cette intro. La stipulation, par contre, j'ai un petit peu de mal à voir la logique dans tout ça. Puisqu'effectivement, je n'ai pas l'impression que le Fiend soit un personnage qui fuit. Il se téléporte d'un endroit à l'autre, mais souvent, c'est plutôt genre il te met la main dessus et c'est foutu pour toi. Tu vois, c'est plutôt à toi de fuir.
Mais peut-être que, ouais, je sais pas, c'est un choix. Il fallait.
Je suis comme toi en fait, je suis assez confiant sur l'intelligence de Daniel Bryan en tant que lutteur pour réussir à nous sortir quelque chose de bon de cette stipulation un peu bancale quoi. Ça par contre là-dessus je suis assez confiant.
Moi aussi c'est mon état d'esprit par rapport à cette stipulation. Après je suis d'accord avec toi, il y a eu un paquet de strap match, j'ai un souvenir je crois d'Alberto Del Rio versus Rusev. Ou des matchs plus anciens avec Jimmy Snuka aussi, où vraiment, ouais, cette stipulation, ça peut être un peu une purge. Hein. Mais bon, l'ambiance des lumières rouges, avec un lutteur intelligent comme l'est Daniel Bryan, ça peut nous donner malgré tout un bon match.
Morrison est de retour entre les cordes.
Oui !
Oh, voilà qui a dû faire plaisir à certains catch-uppers et catch-uppeuses, y compris en interne.
Beaucoup de catch-uppeuses, je pense, sont folles du corps de John Morrison.
Attends, qui n'est pas fou du corps de John Morrison? J'aimerais bien avoir le corps de John Morrison. Hein.
Putain, moi je donnerais cher aussi, hein. Ouais, c'est clair. Hein.
Bon, pas trop cher, parce que j'ai quelques crédits en cours quand même, faut rembourser la bagnole, mais... Morrison retour en action face à qui? À Biggie. Écoute, il a plutôt gardé la shape, hein, Morrison. Il a la forme, hein, il virevolte encore dans tous les sens, il nous fait des acrobaties.
Mais oui.
Il est assez stiff aussi. Je me souvenais pas que John Morrison foutait des grosses patates comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il a développé ces dernières années.
Il est passé par la Lucha Underground et à la Lucha Underground c'était très stiff, donc il y a été champion là-bas, hein, comme il a été champion à la TNA.
Ouais.
Il a été champion partout où il est passé de toute façon pendant ses 9 ans d'éclipse à la WWE. Moi j'ai adoré son run à la Lucha Underground où il a commencé comme face et il a terminé comme heel. Il a quelques matchs d'anthologie, allez voir sur YouTube, chercher, taper John Morris, Johnny Mundo à la Lucha Underground et vous verrez des matchs de feu, en particulier contre un certain Ricky qui s'appelait Prince Puma à l'époque. Allez, si je vous conseille un match, allez voir le ladder match entre Prince Puma et Johnny Mundo. Et là, vous verrez du catch, les amis.
Ouais, bon, on en est aussi ce soir, mais ça durait 8 minutes 20, il n'y avait pas d'échelle. Kofi s'est débarrassé du Miz qui était aux alentours. Morrison en a profité pour faire un gros dive là sur Kofi et s'en débarrasser. Et Biggie n'a pas réussi à capitaliser là-dessus, même s'il a sorti des gros moves aussi. Hein, Biggie, mais il se fait distraire par le Miz. Morrison place un head kick, un running knee et surtout son Starship Pain qui est toujours aussi impressionnant. Voilà, même si. C'est dingue, enfin, cette prise, elle est complètement off, quoi, fou, je trouve. Je suis toujours assez impressionné et il a quasiment rien perdu. Hein. Et bon, tu sens que le temps est passé par là, mais c'est assez incroyable d'avoir un mec surtout de ce gabarit-là, toi. C'est pas un petit bonhomme qui va dans tous les sens. Il est assez costaud, quand même.
D'ailleurs, il le dit, le commentateur, Corey Graves, il en parle de ça. Hein. Il dit qu'en plus, voilà, John Morrison, faut pas croire, c'est pas un cruiserweight, quoi, malgré.
Ouais, c'est pas 205, là, le mec. Hein. Et pourtant, il a le même moveset, quoi.
Ouais, non, c'est un bon match. Hein. Et, en plus, avec Biggie, je veux dire, il avait pas un peintre en face de lui, quoi. Et il a le champion par équipe, voilà, donc du coup, non, ça nous a donné un bon match, hein. C'était, voilà, 8 minutes, c'était vraiment un minimum syndical, hein. Moi j'en aurais bien pris quelques louches supplémentaires, mais du coup, ça nous envoie là avec une belle équipe, enfin moi je fais partie des satisfaits, hein. C'est-à-dire que moi, l'équipe John Morrison The Miz, yes, je prends, je signe, je valide, j'adhère,
tu vois. Oh, bah dis donc.
Et alors là, cette équipe-là, dans la Tag Team Division à SmackDown, moi qui arrête pas de me plaindre de la Tag Team Division de SmackDown, et ben là, voilà une belle occasion de relancer cette division. Et écoute, moi, match pour le titre, John Morrison, The Miz versus New Day. Oui, je dis oui.
Il a dit oui. on reste dans la division Tag Team, si tu veux bien, justement.
Mais oui, c'est ça qui est beau dans cet épisode, cette semaine-là.
C'est le retour de la division Tag Team en force, hein, puisque les Usos affrontaient les Revival, donc une belle affiche avec les frangins qui sont de retour. Juste avant, ils ont fait une petite promo là, dans les coulisses. Ils étaient au sous-sol, au troisième sous-sol, avec leur pote Roman Reigns. Juste après, ils ont eu donc leur match face aux Revival. Et une victoire à la clé dans un match. Alors, celui était un petit peu expédié, hein. Ça a duré 5 minutes. On a eu le splash et la victoire pour les frangins. Les Revival sont frustrés. Ils sortent un petit peu la même promo que tous les mois pour les Revival. Donc, voilà, qui se prennent un petit coup de caboche là, avec leur tour des Usos, mais voilà, qui remet un petit peu de feu à cette division tag team qui aura connu une très mauvaise année là, en 2019. C'était un petit peu le trou là, clairement, faisant revenir les Usos et John Morrison, on a peut-être retrouvé la clé.
Alors là, déjà, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, t'as eu deux matchs de tag team et t'as quatre tag team présentes. Voilà, ça fait un peu du bien au show bleu. Et j'étais finalement pas très d'accord avec la promo des Revival d'ailleurs à la fin, parce que et qu'ils ont besoin de changer, vu que la WWE elle en a rien à faire d'eux et de la lutte par équipe. Bon, les gars, vous venez d'avoir un match à l'instant. Il y a quatre équipes qui viennent de se montrer à l'antenne. Non, les Revival, là, c'est autre chose qu'il va falloir que vous nous proposiez, quoi. Donc,
ouais, c'était un petit peu. Ils ont sorti la même promo qu'il y a 6 mois, qu'effectivement, il n'y avait plus rien, quoi.
Ouais, c'était un peu étrange. J'ai un peu eu du mal à comprendre pourquoi ils venaient sur cet angle-là, quoi. C'était un peu bizarre. Bon, après, certainement dû aussi à la frustration que ça a été un match assez court, hein, et que les Usos étaient quand même largement dominateurs. Mais bon, ouais. Les Revival, globalement, ils passent plus de temps à perdre quand même. Hein. La réalité, c'est bien ça. Hein. Ils passent plus de temps à perdre qu'à gagner, de toute façon. Donc, ils sont plus là pour mettre en valeur les autres qu'autre chose. Donc, écoute, c'est bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon coup de boost à la division par équipe du show bleu.
Dans la foulée, il y a une brawl entre Lacey Evans.
Bagarre!
Ta copine Bailey.
Ah oui, oh là 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 là.
Voilà, ça se met sur la tronche là dans les couloirs. On apprend. Alors, il y a Sasha Banks qui est là, en plus elle est par terre, là, sa cheville qui est pétée, du coup elle peut pas se battre. Alors Adam Pearce, qui est un des bookers du SmackDown, est visiblement la seule figure d'autorité qui reste. WWE vient à l'infirmerie et dit que c'est Bailey qui va devoir remplacer Sacha ce soir. Ce qui était.
Ouais, c'est presque faute de mieux. Oh bah merde, alors Sacha elle est blessée. Bailey, tu vas aller catcher, tiens.
Toi la championne, je suis désolé de te demander ça, mais. Donc évidemment, elle fait la tronche. On a un match entre Lacey Evans, comme d'hab, et Bailey. Un match qui a duré un peu plus de 10 minutes et la victoire de Lacey Evans à la fin.
Merci Lacey!
Avec son Woman's Rights et donc Bailey qui, un, ne cache pas souvent et deux, quand elle catch, perd. Une bien belle championne que nous avons là.
Ah là 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 là!
Parce qu'il y a de quoi être fier.
Qu'est-ce qu'on rêve en ce moment avec Bailey, c'est fou! Truc de ouf! Comme dirait ma fille.
Ouais, c'est quand même un petit peu triste tout ça.
Ah ouais, qu'est-ce que c'est triste. Hein. Ouais, semaine après semaine, on n'arrête pas de se le répéter tous les deux, quoi. À force, On commence à radoter, je crois, hein, avec Bayley. Mais donc, c'est pour ça que j'étais très content de voir Lacey gagner le match. Et je crois qu'elle va mettre, Lacey, elle va mettre un terme à cette affaire-là. Alors, tu vas me dire si toi, j'ai une question parce que j'avais un doute. Est-ce que ce match donnait finalement officiellement un number one contender pour Lacey Evans ou et peut-être un match pour le pay-per-view ou pas du tout?
Je suis pas sûr qu'ils aient officialisé quoi que ce soit.
Ouais, j'ai pas, voilà, je suis resté sur ce doute, mais bon, écoute.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on protège. Enfin, j'ai l'impression, hein, l'impression que ça donne. Que... Bon, après, dans le match, Bayley était assez dominatrice au début, mais voilà, c'est comme Lacey Evans qui a remporté. Mais t'as vraiment l'impression qu'on protège Sasha Banks au détriment de la championne Bayley, quoi. La big picture, le vrai match, c'est Evans contre Banks, quoi.
Ah, ben ça, on l'a déjà signalé, je crois, de toute façon.
Bah là, on nous le confirme ce soir quand même, parce que là, c'est carrément, on nous balance le match face à la championne en bouche-trou, quoi, comme si de rien n'était.
La vraie rivalité dans le main event féminin, elle est entre Lacey et Sasha, pas avec Bayley. Bayley, elle est. Ben, parce que Bayley, elle est insipide, donc, et du coup, elle est là quasiment. C'est la championne, et pourtant, c'est le sidekick de Sasha Banks.
Ouais, elle est juste là pour lui porter ses affaires. Dans les affaires, t'as la ceinture.
Ouais, voilà, on peut résumer ça comme ça.
Parce que c'est vrai, en plus, Sasha Banks, c'est elle qui va à Los Angeles enregistrer les albums avec son cousin, toi. Donc c'est elle la star.
Mais oui, c'est elle, là, ça, c'est elle qui a le plus de hype des deux, sans aucun problème, quoi. Ouais, et si ça, malgré tout, gère bien son turn de face, et là, elle avait bien le public avec elle. Je sais plus où c'était, SmackDown, cette semaine.
Ah bah c'était, j'allais dire c'était à Knoxville. Ça devait pas être très loin.
Ça devait peut-être pas être très loin, ouais, parce que Kane était là, effectivement, ouais, mais bon, du coup, voilà, moi, finalement, quelque part, hein, j'en suis presque à me dire, bah, il faut qu'il arrive vite, vite, vite ce match pour le titre, et puis que vite, 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 on se débarrasse du règne de Bayley, qu'on passe à autre chose, et puis qu'il bosse sur autre chose, sur la division féminine du show bleu, qui est bien, bien à la bourre de celui du show rouge.
Chad Gable s'est fait embêter par Sheamus backstage. Il lui dit c'est pas bien d'être petit. Et Gable a dit mais je m'en moque, moi j'ai pas peur.
Il est ma mère.
Un peu, je suis un peu frustré là de pas avoir Sheamus entre les cordes là. Mais bon. Et j'espère qu'il va participer au Rumble, qu'il va faire une grosse impression là, Sheamus.
Ouais, non, mais l'Irlandais, il va participer au Rumble. Je peux pas croire une seconde, pareil, qu'il n'y participe
Même
pas. Même si...
s'il y a des chances qu'il se fasse sortir par Gable.
Ouais, ça peut être une probabilité forte. Ouais. Ils vont avoir un match pendant le pay-per-view, peut-être.
Peut-être, ouais. Ah, ouais. Oh bah oui, carrément, il va se faire démonter en 7 secondes. Oui, t'as raison, c'est très probable également. Elia, c'est là, il a besoin de fans. Il a besoin des fans pour marcher avec Elias. Il a écrit une nouvelle chanson. HEC. Greensboro, ils étaient, je crois, en fait.
Ah oui, c'est ça, oui, t'as raison, oui, Greensboro.
Mais Nakamura débarque avec Sami Zayn et Cesaro pour l'interrompre. Il nous parle de cette histoire de Braun qui veut un title shot pour le titre intercontinental. Et du coup, il refuse. Nakamura refuse. Nakamura ne recule pas, mais il refuse ce title shot à Braun Strowman. Elias dit, attendez les gars, j'écris une chanson sur vous. Sami Zayn, ça l'énerve. Et Braun Strowman attaque, arrive pas d'ailleurs au moment où Cesaro allait punir le méchant chanteur. Hein. Et du coup, Braun Strowman arrive et il nettoie le ring. Pour se débarrasser des vilains. On aura donc très probablement un match Braun Strowman contre Nakamura. Je sais pas quand d'ailleurs. Pareil, ça n'a pas été officialisé ça, ce match encore.
Non, pareil. Même, on va en savoir plus cette semaine. Bah, c'était pas mal parce que Braun Strowman il a annoncé que bah, qu'il serait du Royal Rumble match de toute façon, mais qu'il visait aussi le titre intercontinental. Donc c'est bien, le garçon a de l'ambition.
Ah bah oui. Ah
Voilà,
ouais.
donc, mais ça,
Double
c'est
mandat.
si tu veux, quoi. Des fois, on aura un peu tendance à penser que le Braun, des fois, justement, il manque un peu de cette ambition parfois. Donc là, au moins, il a annoncé carrément, il a un double objectif, le garçon. Donc, comme j'ai trouvé pas mal les premières. interaction physique qu'il y a eu entre Nakamura et Strowman, ouais, je suis assez d'accord de le voir dans cette course au titre intercontinental. Après, voilà, Sami Zayn au micro, toujours sympa. Là, du coup, leur clan là, semble bien établi, là, hein, le Nakamura, Cesaro, Sami Zayn. Et puis, le retour d'Elias, qui commence à reprendre du temps d'antenne, regratter un petit peu sa guitare.
Ouais, il ressort ces catchphrases qui fonctionnaient, que tu te demandes pourquoi il y avait arrêté les utiliser, quoi.
Ouais.
Le Walk with Elias, ça marche du feu de Dieu.
Ouais, puis
Donc.
il a le public bien, bien comme il faut, quoi. Donc, écoute, non, c'était plutôt sympa, c'était pas extraordinaire, mais c'était plutôt sympa, ça passait crème.
Ouais, semaine prochaine, un petit 2 contre 2, quoi.
Ouais, ça sent grave ça, de toute façon, ça, quand le tag team player.
Direction, on retourne division féminine, puisqu'il se passe des choses du côté des filles, surtout du côté de Mandy Rose, hein, notre flop féminin de l'année, enfin co-flop féminin de l'année. Sonia et Mandy sont en train de discuter. Sonia demande si Otis sera ringside ce soir, elle a un match. Et Mandy dit, j'en sais trop rien. Elle dit, bah attends. Lui demander d'être ringside pour moi parce que à chaque fois qu'il la dernière fois il était ringside, ça t'avait bien aidé. Mandy Rose fait genre qu'elle voit pas trop ce qui se passe. On a notre match ce soir entre Sonya Deville et Alexa Bliss. Otis et Tucker sont bien là, et effectivement, à un moment donné, Mandy Rose fait une distraction. Elle est éjectée des cordes, et c'est le brave Otis qui la rattrape. Tel un homme galant, un chevalier servant, un chevalier blanc, un peu lubrique, le chevalier quand même, parce qu'il il se lèche les babines en se retrouvant dans cette situation. Mais Alexa Bliss en profite, et pour décrocher la victoire face à Sonya Deville, du coup Sonya Deville n'est pas contente, ça n'a pas fonctionné. Otis était là, mais ça ne lui a pas permis de gagner. Voilà une affaire qui continue. Mandy Rose, peut-être un flop, mais au moins on a une petite histoire là qui est racontée, qui moi je trouve assez divertissant. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
Ouais, il y a une petite histoire, voilà, avec un Otis toujours chaud, mais c'est dommage parce que là, tu vois, il est over le Otis et tout ça, et là maintenant il se retrouve cantonné à manger des gâteaux et à faire un œil lubrique sur la Mandy Rose, quoi. Donc c'est un petit peu. Par contre, pour le coup, ce que j'ai bien aimé dans cet angle, c'est que c'était pas Mandy Rose qui était dans le ring, c'était Sonya Deville. Donc c'était un petit.
Ouais, même si le match était pas, ça durait pas longtemps, et c'était, on faisait vraiment semblant de faire quelque chose en attendant que le spot arrive, quoi.
Ouais, le match a été vraiment rapide, ça je ne pourrais le contester de toute façon, quoi. Bon, c'est pas la partie la plus passionnante de la Tag Team Division de SmackDown, mais ça continue. Alors que moi j'aime bien Alexa, mais Alexa, bon, pour l'instant elle est un petit peu voilà, c'est la mid-card de la division féminine du show.
Ouais, elle est au service des autres pour
Oui,
l'instant.
oui, oui, oui. Ouais, au service des autres, mais c'est elle qui gagne quand même, hein.
Exactement.
Elle
Ah bah oui, bon, c'est pas
reste
incompatible.
compétitive, elle reste performante, Alexa Bliss.
Ah, du moment qu'Otis, moi ce que j'aimerais bien, j'en ai déjà parlé, mais c'est que cette histoire entre Otis et Mandy Rose, il tombe pas dans le piège de, en fait, Mandy Rose utilise Otis depuis le début, mais qu'on ait un truc vraiment plus original, tu vois, où vraiment les deux s'entendent bien et qu'on ait une espèce d'alchimie assez originale dans le. Voilà, entre ces deux personnages. C'est tombé en fait, hein, Sheamus Gable et Lacey Evans versus Bayley, c'est officiel pour le Rumble.
Ah, ok.
Ouais, je te confirme ça. Les deux affiches ont été officialisées. Donc il va se passer ce qu'on a prédit,
Voilà.
probablement.
On est comme ça, un catch-up, nous, voilà. Vous voyez que c'est le cadeau de la maison.
On arrive à notre main event, puisque je pense ne rien avoir oublié, puisqu'on avait ce soir un match entre. Roman Reigns et Robert Roode qui est revenu la semaine dernière avec une stipulation. La stipulation, c'est pas un combat de poils à frire, comme Chris a sorti ses poils là. C'est des poils que j'entends là, Chris.
Ah ouais,
T'es dans ta cuisine en train de préparer à manger là. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon là?
c'était une poêle, une poêle. Oh, je vais préparer une petite saucisse de morteau avec des flageolets.
Ah, des flageolets, on va dire.
Bon,
Ça va. Ça va péter là. Moi, je préfère avec les lentilles, moi.
Ah, avec les lentilles, j'aime bien aussi, mais j'en ai pas sous la main là.
Ah ouais, effectivement, si t'en as pas. Les flageolets feront l'affaire. Bon, il n'y avait pas de flageolets. Ce soir, il n'y avait pas de bouffe. Ce qui est très rare dans un match avec Roman Reigns. Mais il y avait des tables. et il y a une stipulation en plus. Enfin, la stipulation, c'est justement qu'il y a une stipulation. C'est-à-dire que si Roman Reigns gagne, il choisit la stipulation de son match face à Corbin pour le Rumble. Et ben sinon, c'est tout simplement Corbin qui choisira la stipulation si Robert Roode gagne. Grosse brawl entre les deux costauds. Roode va chercher la table. Reigns fait une énorme spire à travers la barricade, mais Robert Roode avait eu le temps d'esquiver Baron Corbin, le King Corbin, excusez-moi mon bon roi, en profite pour arriver sur son royal siège, son royal trône mobile. On a une petite pause pub et Corbin distrait Roman Reigns qui était en train de préparer son spear. Dolph Ziggler place un super kick. Gros passage à tabac de Roman Reigns. Melee Uso débarque pour sauver le Zinku. Il y a des dives dans tous les sens. Dolph est passé à travers la table des annonciateurs. Des commentateurs. Et Reigns passe Roode à travers la table via son gros spear. Victoire de Roman Reigns. La première victoire de Roman Reigns en 6 mois. Face à Robert Roode, on termine enfin sur une victoire des gentils dans un SmackDown. Ça nous a changé.
Oh oui, ça nous a changé. Ouais. Ah, mais c'est le Roman Reigns en main event. Là, du coup, ça rigole pas.
Ouais, mais Roman Reigns, c'est un petit peu a tendance à perdre ces derniers temps. Quand même.
Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup perdu ces derniers temps. Mais malgré cela, il reste encore une valeur sûre du roster.
D'ailleurs, il a choisi, hein, ce sera un False Count Anywhere match au Rumble.
Oui, il a choisi, oui. D'ailleurs, j'étais très contente, pour le coup, de cette stipulation-là. Je trouve ça bien sympa. Ouais. Et ça risque d'envoyer, ça. Parce que les matchs où souvent Roman Reigns a été impliqué un peu à l'extérieur, je pense, de là, toute la période avec le Shield, etc., il nous faisait souvent des gros trucs, ça a laissé des belles impressions. Et du coup, c'était pas mal ce match. T'as le timing, tu sais combien de temps il a duré, quoi, mais parce que ça m'a pas.
Un bon quart d'heure, je pense. Hein.
Bon quart d'heure, hein, ouais, facile.
Ah non, même pas. 11
ah
minutes.
Non, même pas. 11 minutes, ah ouais, bah tu vois.
C'est intense.
Mais voilà, bah, là, on a le droit de toute façon en ce moment à toutes les interventions et tout l'overbooking avec du fait du clan. Encore un clan, hein, finalement. En ce moment, il y en a pas mal, hein, des groupes de 2, 3, 4, comme ça, quoi, qui tourne sur les deux shows, ça marche plutôt pas mal, ça. Hein. C'est pas mal de tri. Il pourrait presque créer un titre Trios à la WWE. Tellement il y a trio, quoi.
Encore un titre. On va y arriver au fantasme ultime de Chris où il y a que des matchs pour des titres. Tout le monde aura sa ceinture, ce sera voilà. Tout le monde est gentil, tout le monde est le champion. Dans voilà. Le 21e siècle, personne n'est mis sur la touche.
Donc non, mais c'est malgré tout, c'est quand même une réalité qu'ils forment comme ça des trios, souvent ils. Mais ça se passe bien. Moi j'ai plutôt bien aimé ce main event pour le coup.
Ouais, effectivement, c'était intense, efficace. On a explosé des barricades, on a explosé des tables. Il y a eu un petit peu d'overbooking. Et puis on nous book un match avec une stipulation qui effectivement va bien aider, toi. Ce match-là qui scellera peut-être pour le soulagement de certains la rivalité entre le Big Dog et le Roi. Donc c'était un bon main event, bien focus.
Quand même ce spot des Ouzo là qui mettent Ziggler sur la table des commentateurs, des annonciateurs, ouais. As you said. Et voilà, qui font un double splash sur le dolphin là. Ça c'était un gros moment quoi sur la fin de ce match quoi.
Ouais, c'est quand ils l'ont préparé, je dis mais attends les gars, qu'est-ce qu'ils font? Enfin c'est gratuit, violence gratuite.
Ouais, le Roman bien quoi, le Roman il démolit sur Inspire le Robert Roode, derrière il va pécho le micro, voilà, il dit, OK, moi je t'attrape et en plus je vais t'attraper partout dans la salle. Au pay-per-view du Royal Rumble, à False Count Anywhere, bim! Allez! C'est très bien.
Au moins, il les aura prévenus.
Voilà.
Bon, ben, c'est comme ça que c'est terminé cet avant-dernier show bleu pré-Rumble. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon Chris. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
bah cette semaine, hein, ça fait un moment que
j'ai... Ben, là, j'ai cru que t'allais me dire non. Bah cette semaine, non, je veux pas.
Je fais grève. Mais non, en fait, mais j'ai pas trop pour une fois là le... Je pourrais encore passer un SmackDown, mettre la division féminine dans mon flop, mais j'ai un peu, ça devient de plus en plus répétitif. Ça. Alors du coup, je vais le donner plutôt au Revival pour leur promo de fin de, enfin d'après match, que j'ai trouvé pas cohérente et que c'était pas ça que j'attendais d'eux et que finalement, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, de toute manière, ils font la même chose que ce qui était il y a 6 mois, alors que là, les circonstances sont différentes et que la vibe était différente cette semaine dans le show bleu, quoi. Donc, du coup, je vais le donner au Revival. Et puis, mon top, bah, je vais rester dans la tag team. Et puis, bah, mon top, je vais le donner à l'équipe, parce que pour moi, dorénavant, c'est une équipe. Le retour de l'équipe de John Morrison et versus The Miz, ça me fait très plaisir. Et voilà un truc qui suscite mon intérêt pour la Tag Team Division de SmackDown, qu'on avait bien besoin. Donc, je vais donner mon top à cette formation d'équipe. Et puis, ma note, eh ben, ça va être meilleur que ces dernières semaines. C'était un SmackDown beaucoup plus vivant. Il y a de l'excitation pour ce Royal Rumble qui arrive. Je vais lui mettre un solide 3.
Oh bah écoute, c'est plutôt bien vu effectivement. Moi, mon flop, je vais le donner. Je vais m'acharner sur Bailey, hein, voilà, qui en plus trouve le moyen de perdre son match, évidemment. C'est assez catastrophique. Chaque semaine, t'as l'impression qu'ils arrivent à faire encore pire dans l'enterrage total de Bailey. Continue de creuser. Mon top, je l'aurais bien donné à Morrison, mais quand tu me l'as donné, je vais me faire un petit plaisir. Je vais le donner à Kane, qui visiblement arrive à gérer son agenda, puisqu'il vote des budgets et en même temps il vient faire un petit coucou à SmackDown. Donc visiblement, c'est un homme multitâche.
Et ouais, polyvalent, Kane.
Donc ça fait plaisir. Là, Kane, le petit retour de Kane là, était fort sympathique. Ma note, écoute, je suis un peu comme toi, c'était solide, rien d'extravagant non plus. C'est assez, on s'est focalisé sur les points névralgiques et les choses importantes pour le Rumble, sans pour autant que ça brille particulièrement, tu vois. Je vais donner un 3,25, allez, c'était costaud. Bon, voilà, c'était plutôt un bon épisode de SmackDown.
Ouais, ça remonte les notes qu'on a données ces dernières semaines, parce qu'entre les deux, mettre un 3, ça fait plaisir.
Voilà, on sent que, et on espère surtout que les choses vont vraiment se décanter et que tout va partir dans tous les sens. Enfin voilà, on va propulser les storylines après le Rumble. On voit que là, on se retient un petit peu, toi, on y va doucement mais sûrement. Je pense qu'après le Rumble, la direction WrestleMania, ça devrait envoyer du lourd. On va avoir des programmes bien clairs et des mecs qui se mettent sur la tronche et des bonnes grosses promos. Donc, et peut-être que Bailey sera... on renverra Bailey à NXT, peut-être, je sais pas. Il va peut-être se passer des choses intéressantes comme ça.
À une semaine du Rumble et derrière qui lance la Road to WrestleMania. Là, normalement, on est dans une période de l'année où ça pulse et il va y avoir de quoi commenter.
Je vous rappelle, hein, Catch Up, votre podcast, oh punaise, qui résume et analyse les shows de la WWE, vous pouvez le retrouver en audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer, également sur YouTube, PodCloud, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord, le lien est dans la description. Nous avons également célébré l'année 2019 avec la remise de nos awards de catch-up, les tops et les flops, le meilleur comme le pire. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci à toi, Chris, pour ta présence.
Avec plaisir, mon bon Irem, avec plaisir.
Et on se donne rendez-vous très bientôt pour l'analyse de Monday Night Raw. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut le patron, salut peuple de ketchup. Allez, ça sera saucisse morteau et flageolet. And if you smell what the Chris is cooking.
tout, tout, tout. Oh, je le fais mal.